Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos à la une. Notre drame de Paris, après les déboires de la piétonnisation des voies sur berge, après le chaos du Vélib et la mort d'Autolib, Bruno Julliard, le fidèle parmi les fidèles d'Anne Hidalgo, lâche sa patronne et étrille son bilan. Déficit d'efficacité, gestion solitaire, précipitation, erreur, manque de vigilance. L'ex-bras droit de la maire de la capitale n'y croit plus. Alors qu'est-ce qui a poussé Bruno Julliard à partir? A-t-il l'impression de la trahir? Anne Hidalgo est-elle à la hauteur de ses fonctions? Que compte-t-il faire maintenant? Bruno Julliard a choisi RTL pour s'expliquer. Il sera notre invité tout à l'heure à 18h20. Et puis évidemment, nous reviendrons sur les dossiers noirs qui empoisonnent le mandat d'Anne Hidalgo avant d'en débattre tout à l'heure dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Le procès du meurtre d'Hélène Pastor s'ouvre aujourd'hui. La richissime héritière monégasque a été tuée à Nice il y a 4 ans. C'est son gendre qui est jugé avec tous ses complices présumés. Récit complet dans un instant. Après le plan pauvreté, le plan santé très attendu aussi. Emmanuel Macron le présentera demain. Parmi les mesures espérées, la création d'un métier d'assistant de santé pour épauler les médecins et des centres de santé de proximité. Le nouveau patron d'Air France prend ses fonctions aujourd'hui. En signe de bonne volonté, Ben Smith annonce qu'il va investir la moitié de son salaire fixe dans l'entreprise. À suivre également les malheurs de Marie Bonheur. L'amnésique de Perpignan a finalement retrouvé son identité, pas vraiment pour le meilleur. Le début des évaluations au CP et en CE1. Et puis la contre-attaque de Woody Allen. C'est sa jeune épouse, qui est aussi sa fille adoptive, qui monte au créneau pour le défendre face aux accusations d'abus sexuels. Les courses à Maison Lafitte, il fallait jouer le 14, le 4, le 12... le 2 et le 8. La Bourse de Paris, elle termine à l'équilibre à 5348 points.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, le gouvernement lance une campagne contre les faux sites officiels qui vous demandent de payer pour les démarches administratives en ligne. Mais alors, qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce qui est gratuit en fait? Puis direction les coulisses de l'actualité, une machination terrible, digne d'un polar donc devant les assises. La femme la plus riche de Monaco, assassinée par son propre gendre. On va quand même vous amener en coulisses de cette dynastie Pastor tout à l'heure. 18h30, Alain Duhamel et Emmanuel Macron, petit remonter la pente. 18h35, le dieu du stade. Ce week-end, Kevin Mayer est entré au panthéon de l'athlétisme. Il a pulvérisé le record du monde du décathlon. Il sera notre invité, 18h35. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
De la chaleur pour demain, avec un ciel plus nuageux.
Oui, une chaleur encore exceptionnelle. Déjà cet après-midi, on a frôlé les 35 degrés dans le sud-ouest. On a atteint les 30 degrés à Paris. Même tendance pour demain. Dès demain matin, les températures seront douces. 17 par exemple à Paris et à Lyon. Et dans l'après-midi, 21 à 32 degrés. 21 degrés à Brest, 25 à Lille, 27 à Nice, encore 28 à Paris et 32 à Lyon. Mais le ciel sera plus nuageux. Alors en matinée sur la moitié ouest et près du golfe du Lion avec quelques averses. Et puis dans l'après-midi, le temps deviendra plus instable, plus orageux entre le nord-est et le centre.
Merci beaucoup Patricia et à tout à l'heure.
RTL Soir.
C'est une histoire digne des meilleurs feuilletons télé, de l'argent, des mensonges, un meurtre. Le procès Pastor s'est ouvert aujourd'hui aux assises d'Aix-en-Provence, Isabelle.
Dans le box des accusés, Wojciech Janowski, accusé d'avoir assassiné sa riche belle-mère Hélène Pastor. L'héritière monégasque, maîtresse d'un immense empire immobilier, a été tuée à Nice en mai 2014 avec son chauffeur. Durant l'enquête, Janowski a avoué avant de se rétracter. Depuis, il nie farouchement. Cindy Hubert, vous suivez l'audience pour RTL. Aux côtés de Janowski, dans le box, il y a tout de même un casting improbable.
Oui, il y a d'abord la petite frappe, les deux tueurs à gages assis juste à côté de celui qui avait un temps été pressenti pour être le tireur avant qu'il ne se désiste parce qu'il ne le sentait pas. Dans ce dossier, son métier de gendarme lui vaut le surnom d'inspecteur d'Eric, même si la ressemblance n'est pas vraiment frappante entre son crâne rasé et ses pectoraux impressionnants. Juste devant eux sont assis ceux qui ont joué notamment les intermédiaires dans ce guet-apens chiffré à 140 000 euros. Des aires patibulaires et des casiers fournis. C'est à ces voyous marseillais qui a fait appel l'un des personnages clés de cette affaire, Pascal Doriac, le coach sportif, qui vient de confirmer à l'instant sa position. Oui, il a bien organisé l'assassinat d'Hélène Pastor. Mais il continue de désigner un homme comme le commanditaire, Wojciech Janowski, le gendre de la famille Pastor, celui accusé par le juge d'instruction d'avoir siphonné méthodiquement la fortune de sa femme, puis d'avoir fait supprimer sa belle-mère pour toucher une partie de l'héritage. Aujourd'hui dans le box, il évite soigneusement les regards de son ancienne compagne. Sa voix est assurée, ses mots vibrent d'un accent polonais prononcé. Je suis innocent, dit-il, je n'ai pas commis de crime. Les jurés ont un mois pour tenter de savoir qui a assassiné la milliardaire.
Aux Assises d'Aix-en-Provence pour RTL, Cindy Hubert. Anne Hidalgo vient donc de se prendre une gifle retentissante. Son premier adjoint démissionne et il la cloue au pilori.
Bruno Julliard devait être son directeur de campagne pour les prochaines municipales. N'en parlons plus. Non seulement il refuse, mais en plus, il jette l'éponge. Il évoque de vifs désaccords. Je n'y crois plus, je ne veux pas faire semblant. Voilà ce qu'il déclare dans les colonnes du Monde, en étriant au passage le bilan de la maire de Paris. Bruno Julliard parle d'opportunisme, d'inconstance et pointe un déficit d'humilité. Bonsoir Olivier Bost.
Bonsoir.
Moi, ce qui est certain, c'est qu'en 4 ans de mandat, Anne Hidalgo a collectionné les polémiques.
Oui, et ça a vraiment commencé il y a 2 ans avec la fermeture des voies sur berge à la circulation automobile. Les opposants d'Anne Hidalgo lui reprochent alors de passer en force, sans concertation, sans études sérieuses et avec des arrêtés municipaux signés à la va-vite. Parallèlement, l'opposition lui reproche aussi une ville sale où les services de nettoyage sont mal organisés et peu efficaces. Ensuite, ce sont des marchés publics défaillants qui vont alimenter la chronique des derniers mois. Il y a la succession catastrophique du service Vélib qui peine à revenir à la normale. Il y a eu aussi l'arrêt des Autolib, le service de voitures électriques ultra déficitaire. À chaque fois, ce que pointent ses opposants, et aujourd'hui Bruno Julliard avec eux, c'est la gestion autoritaire et solitaire d'Anne Hidalgo. Dans sa majorité, ses proches expliquent que justement, ce n'est plus le cas, que depuis plusieurs mois, Anne Hidalgo a changé ses façons de faire, qu'elle joue bien plus collectif et que les dysfonctionnements ne seront bientôt que des mauvais souvenirs au moment de l'élection municipale.
Olivier Bost du service politique d'RTL. Et je vous rappelle donc que Bruno Julliard a choisi RTL donc pour expliquer sa démission. Il sera avec nous à 18h20.
Une nouvelle mise en examen pour Claude Guéant. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy est poursuivi notamment pour corruption passive dans l'enquête sur le possible financement libyen de la campagne de 2017.
C'est l'autre plan très attendu de cette rentrée. Après le plan pauvreté, Emmanuel Macron doit dévaler demain sa réforme du système de santé.
Objectif, désengorger les urgences et mieux répondre à la demande de soins en luttant notamment contre les déserts médicaux. Ça passe par une réforme de la carte hospitalière et aussi quelques nouveautés, Anaïs Bouissou.
D'abord, les médecins généralistes et spécialistes seront incités à accueillir plus de patients. Ça passe par la création d'un nouveau métier, celui d'assistant médical, qui s'occuperait par exemple en début de consultation de peser les patients, prendre leur tension, un peu l'équivalent des assistants dentaires aujourd'hui pour les dentistes. Les médecins seraient également incités à travailler davantage en équipe pour mieux gérer la prise en charge des patients. Ensuite, le plan veut désengorger les hôpitaux et les services d'urgence. Pour y parvenir, le chef de l'État pourrait annoncer la création d'hôpitaux de proximité, des hôpitaux de taille intermédiaire entre les gros hôpitaux qu'on connaît aujourd'hui et les petites maisons de santé. Les patients pourraient à la fois y faire une radio, une petite chirurgie, une consultation de kinésithérapie par exemple, une prise de sang, avec à la fois des médecins de ville et d'hôpital au même endroit. Enfin, vu les conditions catastrophiques d'enseignement de la médecine aujourd'hui, le chef de l'État devrait acter la refonte des études de médecine, à commencer par le concours de fin de première année, véritable boucherie à étudiants, avec seulement 20% de jeunes qui parviennent à passer en deuxième année.
Précision d'Anaïs Bouissou du service économie de RTL.
Emmanuel Macron exclut formellement de modifier les droits de succession pendant le quinquennat. Petit recadrage après les déclarations hier sur RTL de Christophe Castaner qui disait ouvrir une réflexion sans tabou sur cette fiscalité spécifique.
Il a été nommé mi-août, au cœur de l'été donc. Ben Smith prend ses fonctions aujourd'hui à la tête d'Air France.
Le Canadien atterrit en pleine turbulence après une longue grève perlée pour de meilleurs salaires. Le sien de salaire a bien fait grincer des dents côté syndicat. S'il remplit tous ses objectifs, M. Smith pourra toucher jusqu'à 4 millions d'euros par an, dont 900 000 euros de fixe. Alors le nouveau patron a voulu donner des gages. Il promet d'investir 50% de ce salaire fixe en titre du groupe.
J'ai déjà fait un investissement personnel en m'installant avec ma famille en France. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un autre en investissant la moitié de ma rémunération fixe dans le capital d'Air France KLM. C'est une manière d'afficher ma confiance dans notre futur succès.
Ben Smith qui a rencontré les syndicats pour la première fois cet après-midi. Ils l'attendent évidemment sur les salaires et doivent se réunir vendredi pour décider d'une éventuelle grève.
RTL Soir 18h09.
On va marquer une pause et dans un instant, la triste histoire de Marie Bonheur, l'amnésique de Perpignan.
RTL Soir 18h10, Marc-Olivier Fogel et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Marie Bonheur a finalement retrouvé son identité, elle a aussi retrouvé son histoire et ça n'a rien de très gai, Isabelle.
Cette dame de 70 ou 80 ans avait été trouvée en février dernier dans une rue de Perpignan, inconsciente et couverte de bleu. Elle était est amnésique et vivait depuis à l'hôpital. Après son appel à témoins, un voisin l'a finalement reconnue. En fait, elle était tout près de chez elle. Bonsoir Patrick Tégéro. Les pièces du puzzle se mettent en place et apparemment, cette Marie Bonheur avait bien mal choisi son nom.
Henri est le plus proche voisin, c'est lui qui a permis d'identifier Marie Bonheur.
C'est mon épouse, en regardant les actualités régionales, m'a appelé, m'a dit viens voir, est-ce que tu reconnais cette dame? Je lui ai dit oui, c'était notre ancienne voisine. Il y avait 4-5 mois qu'on ne la voyait plus. Et puis même quand elle était là, on la voyait rarement. Elle vivait assez chez elle, et puis quand elle passait, elle était, on dirait, un petit peu sauvage, quoi.
Elle s'était refermée sur elle-même, se nourrissant peu, sans eau, ni électricité dans son petit appartement. Alors que s'est-il passé en février dernier? Très maigre, très faible, a-t-elle été agressée? Est-elle tout simplement tombée par terre au bout de la rue à côté de chez elle, avec un peu d'angoisse dans son beau regard? Elle nous confiait la semaine dernière qu'elle avait le sentiment d'avoir vécu un grave traumatisme, qu'elle avait peut-être été kidnappée. En fait, elle n'avait été que la prisonnière d'elle-même, de ses idées noires, suite au décès de son compagnon.
À Perpignan pour RTL, Patrick Tégéro. À peine rentré, déjà évalué, les élèves de CP et de CE1 sont testés à partir d'aujourd'hui.
Et oui, désormais, il y a des évaluations une ou deux fois par an, les mêmes dans toutes les écoles. Le principal syndicat du primaire dénonce des tests trop compliqués, parfois piégeux, et une évaluation au niveau national qui néglige les disparités de territoire. Samuel Goldschmidt, vous vous êtes rendu dans une école de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Les épreuves débutent jeudi dans cet établissement et déjà, le stress monte.
Et oui, car les évaluations ont été présentées officiellement aux parents.
Nous avons été informés la semaine dernière par la maîtresse que les évaluations auraient lieu cette semaine apparemment et qu'elles étaient conséquentes cette année. Il y avait beaucoup d'exercices à effectuer et les maîtresses nous ont dit que ça va nous prendre beaucoup de temps, ça va s'étaler sur plusieurs jours.
Un petit côté solennel qui peut angoisser alors que l'école a tout juste commencé.
En tant que parent, on stresse un tout petit peu. On a dit aux enfants, concentrez-vous. La maîtresse a bien dit, on a le droit de poser qu'une fois la question, l'énoncé. Il faut que l'enfant soit concentré. Et s'il n'a pas écouté l'énoncé, il aura foi à l'exercice, même s'il est capable de le faire. C'est vrai que ça fait un peu peur aux enfants, mais elle nous a dit surtout ne leur faites pas peur. Les parents stressent, mais les enfants, il ne faut pas leur faire peur. En fait, c'est ça.
Et les choses sont faites sérieusement. La maîtresse a reçu ses piles de fascicules immaculées, un par élève très précisément.
On a deux cahiers de français et un cahier de mathématiques. Dans notre école, c'est une maîtresse qui appartient au RASET qui va faire passer la totalité des séquences à tous les élèves de CEP, de façon à ce que les élèves aient les mêmes conditions de passation et les mêmes consignes.
3 fois 1 heure sur 3 jours consécutifs, enseignants comme parents sont curieux ici de connaître les résultats.
À Toul, donc, Samuel Goldschmidt pour RTL. Et puis direction maintenant les États-Unis avec la contre-attaque du clan Woody Allen.
Famille compliquée, hein. Sa fille adoptive Dylan Farrow l'accuse depuis des années d'agression sexuelle. Le cinéaste est marié depuis 25 ans avec une autre fille adoptive, celle de Mia Farrow. Et voilà que Sunyi, c'est son nom, monte au créneau pour le défendre. Il faut dire que le mouvement MeToo est passé par là. Sunyi a accordé une interview au New York Magazine. Et c'est la première fois qu'elle parle, Philippe Corbet.
Oui, l'épouse de Woody Allen accuse Mia Farrow, sa mère adoptive, qui était la compagne du cinéaste lorsqu'elle était adolescente. Accusation d'abus psychologique, elle parle de traumatisme. Après avoir été adoptée en Corée, l'actrice lui jetait des cubes de bois avec des lettres parce qu'elle n'apprenait pas assez vite l'alphabet. Elle la tenait par les jambes, tête en bas, pour que son sang irrigue son cerveau. Et Sunyi laisse entendre que Mia Farrow a voulu se venger d'elle et de Woody Allen en manipulant Dylan Farrow, l'autre fille adoptive de l'actrice, et en retournant le fils biologique du couple Farrow-Allen contre son père, Ronan Farrow, qui est par ailleurs le journaliste qui a révélé l'affaire Weinstein. Alors il faut noter que la journaliste de cet entretien un événement est une amie de longue date de Woody Allen, qu'il était présent lors des entretiens, comme si l'épouse de Woody Allen avait décidé de parler pour la première fois depuis un quart de siècle, afin de sauver la réputation du cinéaste. De nombreux acteurs qui ont tourné avec lui prennent publiquement leur distance, au point que le producteur Amazon hésite à sortir son dernier film, et pour la première fois depuis 45 ans, Allen ne tourne pas cette année, faute de financement.
Merci Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. À tout à l'heure, Isabelle, vous revenez à 18h30, les clés pour bien comprendre l'actualité.